Eh bien, en effet, bien chers amis, nous voici au terme de notre pèlerinage, presque au terme de notre pèlerinage sur la route de gratitude. Mais bien sûr, celle-ci ne s'arrêtera pas ce soir. Ces 5 semaines n'ont fait que l'ouvrir. Et nous avons plein de belles choses dans notre parcours paroissial qui nous attendent dans les semaines et mois à venir. Reprenons brièvement les 4 dernières semaines. Première semaine, nous avons vu la puissance transformante de la gratitude et comment rendre grâce suscite et attire la grâce. En semaine 2, nous avons travaillé et vu comment nous pouvons agir quotidiennement avec Dieu pour cultiver la gratitude même dans nos contrariétés quotidiennes. La 3e semaine, nous avons pu constater que le venin de l'hyperconsommation nous conduit au vide, mais que l'antidote de la gratitude nous fait entrer dans cette merveilleuse dynamique du don. Et puis la semaine dernière, le Père Richard le rappelait, nous avons vu comment chacun peut grandir en gratitude pour l'être étonnant qu'il est, et que nous aimer, c'est remettre de la verticalité dans nos vies. J'ai été créé par Dieu, par amour, et il m'a doté d'un cœur capable de le reconnaître et de se donner à son tour. Cette semaine, en effet, nous allons évoquer la difficile question de la gratitude dans l'épreuve. Et je vous avoue que je me suis posé la question, pourquoi finir ce beau parcours en évoquant l'épreuve? Parce qu'on ne parle pas ici des petites contrariétés, mais bien des coups durs de la vie. Réécoutant Jean-Guilhem Xéry, qui avait parlé un peu de ce sujet, ce qu'il en a dit m'a convaincu. Jean-Guilhem disait « Je ne me voyais pas ne pas poser cette question ». La gratitude est-elle possible dans le malheur? Et puis aussi, je crois qu'au cours de nos 4 semaines passées, eh bien, nous avons suffisamment appris pour aller plus loin dans notre chemin et pouvoir évoquer ensemble gratitude et épreuve. Tout de même, qu'on soit bien d'accord, nous n'allons pas ici donner une recette miracle qui permettrait d'un coup de baguette magique de transformer immédiatement l'épreuve en chant de louange. Je crois que notre humanité a droit aux larmes dans l'épreuve. Jésus lui-même, les entrailles saisies, broyées même, a pleuré son ami Lazare. Dans saint Jean, nous lisons, « Quand il vit qu'elle pleurait, on parle de Marie, la sœur de Marthe, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Alors Jésus se mit à pleurer. » Ce que nous allons faire ensemble ce soir, c'est tenter de regarder certaines pistes pour voir que la vertu de gratitude peut venir éclairer l'épreuve d'une manière différente et soutenir notre espérance. François Chen, que Jean-Guilhem a cité dans son intervention en octobre, a écrit « Vivre, c'est sur une mer de ténèbres savoir dire merci ». Et Jean-Guilhem lui-même a dit « Ce n'est pas seulement le bonheur qui nous met dans la gratitude, c'est la gratitude qui nous met davantage dans la vie, avec évidemment ses bons et ses moins bons moments. » Pardon d'avance aussi si ce que nous dirons ce soir ne vous rejoint pas ou pas assez. Vous avez dans vos livrets et dans vos feuilles beaucoup de beaux témoignages qui pourront peut-être, le cas échéant, vous aider à reprendre et à méditer ce thème plus tard. Alors pour évoquer la gratitude dans l'épreuve, il nous faut revenir d'abord, dans une première partie, au fondement de la vie et de l'attitude chrétienne, et poser ou reposer des actes de foi. Et on va voir 3 grands fondements de l'attitude chrétienne, qui consistent bien évidemment à entrer dans la logique de Dieu, il faut le reconnaître, qui nous dépasse infiniment. Premier acte de foi à poser ou reposer, Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, il veut la vie éternelle. Et c'est vrai que souvent, nous ne comprenons pas le sens de nos épreuves. Pourquoi ai-je telle épreuve? Pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Pourquoi ne me guérit-il pas? Pourquoi n'intervient-il pas? Peut-être que ce sens nous échappe pour 2 raisons principales. La première, et c'est tout à fait normal, nous raisonnons à vue humaine, c'est-à-dire en fonction de notre propre horizon, de nos moyens, de nos possibilités d'action. Alors que de son côté, bien évidemment, Dieu considère, nous considère et considère nos épreuves avec une vue plus large que nous. Dieu voit toute la réalité, toutes les personnes, tous les lieux, mais aussi avec une vue plus longue que la nôtre. Dieu embrasse le temps, il connaît tous les temps, toutes les époques, il est au-dessus du temps. Et puis avec une vue plus profonde, Dieu nous connaît le fond de notre cœur et le fond de cœur de chaque homme. On a vu un peu ça la semaine dernière. On en trouve une traduction dans le livre d'Isaïe. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors bien sûr, cette toute-puissance de Dieu, elle nous dépasse. C'est pourquoi nous sommes appelés à cet acte de foi. Peut-être deuxième raison qu'on peut dire, il peut nous échapper parfois que Dieu vise un but supérieur pour nous. Il veut, on a dit, la vie éternelle pour nous, et il veut aussi la joie en surabondance. C'est ce que dit l'évangile de Saint Jean. Et nous pouvons nous souvenir qu'il met tout en œuvre pour cela, dans le respect de notre liberté. Blanche Strebl, dans notre parcours de l'espérance l'an dernier, regardait ce but de Dieu pour nous qui nous dépasse en disant « Je ne suis pas mon épreuve, je ne me réduis pas à mon épreuve. Voilà. » Dieu voit au-delà et peut m'aider à voir au-delà. Donc une première piste sur ce premier acte de foi, Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, la vie éternelle, eh bien, c'est d'essayer de ne pas perdre ce dessein de Dieu pour nous qui est infiniment plus grand que nos épreuves. Deuxième acte de foi que nous pouvons faire, accepter ou en tout cas considérer que Dieu, il faut bien le dire, utilise parfois des moyens qui nous échappent. Pour accomplir son dessein bienveillant et nous mener à la vie éternelle, Dieu se sert de tout ce qui nous arrive, même des événements difficiles qui, à première vue, et c'est bien légitime, nous semble contraire à ce dessein. On peut donner quelques exemples de ces événements négatifs, voire dramatiques, qui produisent des fruits positifs. Un exemple historique, Saint Ignace de Loyola s'est converti pendant sa convalescence après qu'un boulet de canon lui a cassé, enfin même broyé, la jambe pendant le siège de Pampelune. Plus proche de nous, l'incendie de Notre-Dame de Paris, je crois, nous a stupéfaits. Je pense que nous y avons tous vu brûler une part de cette France, fille aînée de l'Église, que nous chérissons. Et pourtant, le père Vincent me parlait récemment d'un reportage de France 2 sur la reconstruction de Notre-Dame, où l'on mesure vraiment de manière palpable les grâces incroyables qu'ont vécues, à la fois pour eux, mais entre eux, les artisans qui ont rebattu Notre-Dame. Et aujourd'hui, au moment de son inauguration, on a bien vu que le monde entier s'est ému de joie en contemplant Notre-Dame retrouvée. Donc on voit que cet incendie terrible a conduit à des fruits magnifiques. Un exemple plus personnel, avec Lucie, nous avons 3 enfants, mais nous en avons attendu 7. Entre Blanche, qui est notre aînée, et Achille, le dernier, 4 sont montés au ciel avant de naître. Et pourtant, je sais aujourd'hui que ces épreuves de 4 enfants qui ont été désirés, attendus et puis perdus, je les appelle notre brigade du ciel, Dieu était là dans ces épreuves. Et à tel point que même si je ne le connaissais pas encore, pendant que nous attendions Achille et la grossesse a été compliquée, eh bien il est venu me chercher. Je vous passe les détails, c'est pas le lieu et puis on n'aurait pas le temps, mais voilà, Achille est né, 2 ans après j'ai été baptisé, et c'est même au-delà de ça, toute notre famille que le feu de l'Esprit est venu embraser. Encore un exemple, un couple d'amis qui m'est très cher a eu la douleur de perdre son plus jeune fils il y a quelques années. Le papa n'était pas croyant, et pourtant, il a rencontré Jésus en accompagnant avec toute la communauté et la prière de la communauté son tout jeune enfant jusqu'à son dernier souffle. Et il a délibérément, et cet acte de foi m'a profondément marqué, choisi de croire dans cette épreuve indicible aux promesses de Dieu. Et je vous assure que les fruits autour de cette famille aujourd'hui sont immenses, même si bien sûr la peine demeure et peut demeurer. Jean-Paul II dit une chose très belle qui résume un peu ça. Dans nos plaisirs, Dieu nous parle doucement, mais dans nos souffrances, il élève la voix. Bien sûr, parfois, et encore une fois, nous ne pouvons pas nous en faire le reproche, nous ne parvenons pas à discerner la fécondité dans un événement négatif. Je crois que Dieu, dans ces moments-là, Dieu qui nous aime, nous invite à persévérer dans cette nuit et à demeurer dans la confiance, dans l'adoration, en attendant que le voile soit un jour levé, peut-être au ciel. Ça m'a fait penser à Mère Teresa, dont on a dit que pendant 50 ans, elle avait connu la nuit de la foi. Je crois que personne ne doute ici qu'aujourd'hui, elle chante avec Dieu dans le royaume. Il y a une belle image qui est donnée aussi, et vous en avez un témoignage dans vos feuilles ou dans vos carnets, c'est l'image de la tapisserie. Le beau côté, où la tapisserie est très nette, belle et pleine de couleurs, c'est la vie telle que nous la verrons au ciel. Et puis quand vous retournez une tapisserie, les fils sont un peu enchevêtrés, c'est flou. Ben, ça, pour partie, c'est notre vie aujourd'hui, telle que nous la voyons sur la terre. Troisième acte de foi que nous pouvons poser, croire que Dieu fait tout pour concourir à notre bien. C'est la citation de la lettre aux Romains pour ce soir. « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, nous dit saint Paul, lui-même fait tout contribuer à leur bien. » Et quand on dit tout, ce sont bien les événements positifs comme les négatifs. Et notre bien, ne l'oublions pas, c'est ultimement notre salut, et au-delà de notre personne, celui de l'humanité. La toute-puissance de Dieu est capable de tirer le bien même du mal. Le mystère de la croix, pour cela, est un enseignement. La souffrance, qui n'a en elle-même aucun sens, il faut bien se le redire, peut devenir l'occasion d'un amour qui va jusqu'à l'extrême. Du plus grand péché que l'humanité n'ait jamais commis, le meurtre du Fils bien-aimé, Dieu en a tiré le plus grand bienfait pour nous tous, le salut et la vie éternelle. Vous retrouvez dans votre feuille d'autres exemples pour méditer cet acte de foi. Jean-Paul II, qu'on citera beaucoup ce soir, mais Dieu sait s'il a souffert dans sa chair, a écrit « Dans la passion du Christ, la souffrance humaine a atteint son sommet et simultanément elle a revêtu une dimension complètement nouvelle. Elle a été liée à l'amour. Aujourd'hui, dans les souffrances qui nous frappent personnellement et que nous ne pouvons pas éviter, le Christ nous invite à puiser la possibilité d'un amour plus grand. » Et puis, tâchez aussi de nous souvenir que Dieu proportionne sa grâce, la grâce qu'il nous donne à l'épreuve que nous traversons, et qu'il nous donne toujours la grâce suffisante pour traverser le moment présent quand il est douloureux. Saint Paul le rappelle dans la première aux Corinthiens. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Dans une deuxième partie, nous allons voir d'autres pistes encore, qu'on peut qualifier de 5 attitudes pour demeurer dans la gratitude ou tenter de demeurer dans la gratitude au temps de l'épreuve. Avant de les évoquer, il peut être utile de se dire que l'épreuve reste malgré tout mystérieuse pour une grande part et nous dépasse. Ça m'a fait repenser à cette rencontre du pape François avec plus de 30 000 jeunes sur un campus catholique à Manille, où une petite Iris, abandonnée par ses parents, recueillie par une association caritative, lui a demandé la voix brisée par les larmes, je la cite, « De nombreux enfants sont abandonnés par leurs parents. Nombre d'entre eux deviennent des victimes et vivent de mauvaises choses, comme la drogue ou la prostitution. Pourquoi Dieu accepte-t-il de telles choses ? Pourquoi si peu de gens nous viennent-ils en aide ?» Le pape a été très ému. À ce moment-là, il l'a prise dans ses bras, a posé son discours. Et puis, il a répondu que cette jeune fille avait posé la seule question pour laquelle il n'y a pas de réponse. Et il est vrai que si je ne sais pas pourquoi l'épreuve, avec l'aide de Dieu, je peux me demander comment la vivre avec lui. Et puis, n'oublions aussi jamais que notre parcours de gratitude, évidemment, n'a pas pour vocation à faire de nous, vis-à-vis de ceux qui sont dans l'épreuve, des donneurs de leçons. Je ne doute pas un instant que notre pape vit dans la gratitude. Et vous voyez, pourtant, il n'a pas fait un enseignement à cette petite fille. Il l'a rejointe simplement en la prenant dans ses bras, ce qui était sans doute d'ailleurs la meilleure façon de susciter chez elle un sentiment de gratitude, la gratitude d'avoir été entendue et consolée. Mystère, donc, une part de mystère qui demeure dans l'épreuve. Alors revenons à ces 5 attitudes qui peuvent nous aider dans l'épreuve, au temps de l'épreuve. La première, confesser la bonté de Dieu en s'appuyant sur la Bible, sur sa parole. Le psaume 33 nous dit « Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. » Le livre de la sagesse nous rappelle aussi un point fondamental. Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Et puis dans saint Jean, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Redisons aussi tout de même que la Bible ne nous fait pas confesser cette bonté de Dieu dans l'épreuve en faisant abstraction précisément des épreuves. Dans les psaumes, dans tous les psaumes d'Israël, la louange et la supplication forment un couple inséparable. Dieu accompagne toute notre humanité. Deuxième attitude au temps de l'épreuve, confesser la bonté de Dieu en regardant le Christ en croix. On l'a un tout petit peu dit tout à l'heure. Sur la croix, explique saint Jean-Paul II, Dieu a décidé de nous parler le langage de l'amour qui est plus fort que la mort. Il y a cette phrase très belle de Paul Claudel, Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu pour l'expliquer, il est venu pour la remplir de sa présence. Autre piste, troisième piste, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans notre parcours, faire mémoire des moments bénis que j'ai vécus. On voit qu'Israël, dans l'épreuve, fait mémoire des bontés du Seigneur. Le psalmiste encore nous dit « Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» Il y a bien cette mémoire des bontés du Seigneur. Et on peut ici d'ailleurs se souvenir des enseignements de saint Ignace de Loyola, dans les exercices spirituels, où il nous explique que nous sommes alternativement en période de consolation et de désolation. La consolation, c'est l'élan, le dynamisme, la paix, la joie, la confiance, l'amour, etc. La désolation, à l'inverse, c'est le trouble, l'obscurité, l'agitation, la tentation, la paresse, la tristesse, la tiédeur. Alors, nous pouvons nous-mêmes être cause de l'état de désolation de notre âme, si nous sommes négligents, paresseux, tièdes dans notre vie spirituelle. Mais bien évidemment, ces alternances consolation-désolation, elles se produisent aussi sans que nous en soyons responsables, comme le rythme des saisons. Mais saint Ignace nous explique que la désolation nous permet d'éprouver ce que nous valons, de vérifier si nous servons et aimons le Seigneur pour lui-même et non pas que pour les périodes de consolation. Ces périodes difficiles nous apprennent aussi qu'il ne dépend pas de nous de faire naître ou conserver les consolations spirituelles. Et au fond, la désolation nous garde dans l'humilité. Et puis, pendant les temps de désolation, saint Ignace nous recommande de nous souvenir de tout ce que le Seigneur nous a donné, de rendre grâce et de tenir bon jusqu'à la consolation revienne. Ainsi, nous souvenir des motifs de gratitude que nous avons et en faire mémoire peut nous aider à traverser les temps d'épreuve. Et d'ailleurs, un exercice que nous pouvons faire en temps d'épreuve, c'est relire la liste des bienfaits que Dieu nous a donnés. Et vous vous souvenez que la première semaine, la deuxième semaine, nous avons dressé des listes de 15 bienfaits et de 15 fois où le Seigneur a été présent à nos côtés. Ça, réactiver cette mémoire-là peut nous aider à traverser les temps d'épreuve. On peut méditer aussi, évidemment, certains textes de la Bible, comme le livre de Coëlette, l'Ecclésiaste, et notamment le chapitre 3, ce chapitre où Coëlette nous dit qu'il y a un temps pour tout. Quatrième attitude dans l'épreuve, poser l'acte de foi que Dieu est présent à mes côtés et qu'il fera tout pour concourir à mon bien. On l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais redisons-le une fois. Si les épreuves de ma vie ne sont évidemment pas des cadeaux, avec le Christ, je peux rechercher à y découvrir un cadeau caché, une grâce à recevoir. Bien évidemment, parfois, le temps est nécessaire pour voir ces grâces dans l'épreuve. Jean-Paul II encore, et on le disait, hein, qui a beaucoup souffert, a écrit « À travers les siècles et les générations humaines, on a constaté que dans la souffrance se cache une force particulière qui rapproche intérieurement l'homme du Christ, une grâce spéciale. » Vous pourrez relire dans vos feuilles le témoignage de saint Vincent de Paul lorsqu'il apprend qu'il a perdu une ferme à un bâtiment important pour sa mission. Cinquième attitude au temps de l'épreuve, avec Jésus, s'ouvrir peu à peu à la fécondité de la croix. Alors attention, c'est sûrement pas quelque chose qu'on peut dire facilement à un proche qui s'ouvre, mais c'est sans doute quelque chose que le Seigneur peut nous enseigner personnellement lorsque nous sommes dans l'épreuve, s'ouvrir à la fécondité de la croix. La grâce pour laquelle nous pouvons prier, la grâce à demander, c'est de passer du refus de la croix, de la colère contre la croix, de l'incompréhension de la croix, au consentement à la croix et même à l'amour de la croix. C'est évidemment un très grand pas, mais c'est ce qui peut donner la fécondité aux croix que nous portons. Personne ne peut le faire à notre place, mais regardons et contemplons comme l'agonie et la croix de Jésus ont sauvé et fécondé toute l'humanité. Il nous le dit dans Saint Jean, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. » Ça m'a évoqué cette haute phrase de Jésus qui nous dit qui sont les bénis du Père dans l'Évangile. « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et ce que j'ai vu à Lourdes comme hospitalier, c'est l'abandon des malades handicapés. Un peu contraint, évidemment. Ces malades que l'on pense, que l'on lave, que l'on soigne. Leur croix. Mais leur croix leur permet de réaliser à eux cette parole. Ce n'est pas seulement moi, l'hospitalier au service qui m'occupe des petits, mais ce sont ces pèlerins âgés, malades, handicapés, qui en acceptant mon aide et ma présence, accomplissent cette parole de Jésus vis-à-vis du petit que je suis en m'offrant leur confiance. Et finalement, on voit que leur croix est un instrument de notre salut commun. Pour nous résumer, avant de conclure, vivre la gratitude dans l'épreuve nous appelle, nous invite à poser ou reposer des actes de foi qui sont au fondement de notre vie chrétienne. Dieu veut mon bien, il veut mon salut. Et puis c'est essayer de vivre, on l'a vu, les attitudes qui peuvent nous y aider. Confesser la bonté de Dieu en nous appuyant sur sa parole et en regardant Jésus en croix. Faire mémoire des moments bénis que j'ai vécus avec lui et croire que Jésus est toujours à mes côtés, en particulier dans l'épreuve. Et puis tenter de s'ouvrir à la fécondité de la croix. Pour conclure, j'aimerais reprendre une phrase que je trouve très éclairante de Jean-Guilhem Xéry. Nous avons vu l'an dernier que l'espérance est l'assurance de la présence de Dieu avec nous dans ce que nous vivons. Le prolongement de l'espérance, c'est la gratitude. L'action de grâce est la réponse à l'espérance, atteste à cette assurance que Dieu est avec nous. Dès lors, la gratitude ne dépend plus des circonstances extérieures, mais d'une présence de celui qui est en moi. Avant de lancer vos groupes d'échange, permettez-moi très simplement de vous remercier du fond du cœur pour la qualité de votre écoute au long de ce parcours et de faire deux petits merci spéciaux. Un à mon ami Pierre-Édouard qui a accepté d'être le fil rouge de ces soirées, et puis un à ma fille, chérie, Blanche, pour sa présence et son soutien au long de ces 5 soirées.
Merci Ludovic. Donc pour ce soir, je vous propose de faire en deux temps nos échanges. On a jusqu'à 40, donc on a 25 minutes devant nous. La première partie, juste pour faire un petit tour de qu'est-ce que vous avez touché dans cette semaine, cet exercice de faire la liste de vos qualités, d'éviter la fausse humilité. Comment vous avez vécu cela. Et dans un deuxième temps, je vous invite, si vous le souhaitez, maintenant que vous connaissez bien vos coéquipiers, si vous pensez déjà pendant la soirée une épreuve ou quelque chose que vous avez vécu ou même en train de vivre, et si le cœur dit, d'aussi témoigner, partager comment vous avez aussi vu l'action de Dieu à l'intérieur de cela, pour lequel vous pouvez aussi rendre grâce. Et je suis sûr que ce serait pour l'édification et le bonheur pour chacun de vous entendre. Donc, à très très vite. Bons échanges.